France Inter. Bonjour à toutes et à tous. L'autisme en France toucherait 700 000 personnes, soit 4 garçons pour une fille, mais cette donnée est imparfaite, peut-être même inexacte. Encore aujourd'hui, les femmes souffrent d'un déficit de diagnostic. Pour beaucoup d'entre elles, le mot autisme devient une réalité passé l'âge de 20 ans. Alors pourquoi ce retard? Quelles en sont les conséquences? Quelles sont aussi les différences entre les hommes et les femmes quand nous parlons d'autisme? Et plus généralement, comment participer à une plus grande inclusivité de ces personnes dans notre société? Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ainsi que vos notes vocales sur l'application de Radio France. Vous pouvez également réagir par message sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes le lundi 2 juin. Vous écoutez France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Eva Rock.
Il est autiste. Oui, très probablement.
Oh, c'est peut-être de ma faute, parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, une fois, j'avais mangé un fromage de chèvre qui n'était pas pasteurisé.
Et non, voilà, c'est de la faute de personne.
Ah, mais ça se soigne?
Non, parce que c'est pas une maladie.
Ok, on aurait dit.
Oui, non. Donc l'autisme, c'est un trouble du développement neurologique. Hein. Les autistes ont une perception atypique du monde.
Pourquoi moi aussi, j'ai rempli un questionnaire?
Pour vérifier une intuition.
Moi aussi, peut-être, je suis...
Oui, très probablement.
Extrait du premier épisode de la formidable série Asperger portée par Nicole Ferroni. La deuxième saison vient d'être acquise par France Télévisions. On attend la date de diffusion. C'est l'histoire d'une maman qui vient consulter pour son fils. Son fils est diagnostiqué autiste et à sa grande surprise, eh bien, elle l'est aussi. Elle le découvre donc à l'âge adulte et c'est souvent le cas chez les femmes. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Bonjour docteur Emmanuel Louis Durand.
Bonjour Eva.
Vous êtes médecin psychiatre dans le centre ressources autisme à Tours et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Alison Dobrez. Bonjour Alison.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice. Vous signez un court-métrage magnifique intitulé « Au-delà des normes ». C'est un film influencé par votre vécu. Vous avez été diagnostiquée autiste et c'était il y a quelques semaines. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Et votre film, à mon sens, a un point commun avec le roman graphique dont le récit est co-signé par notre troisième invité. Bonjour Justine Langlois.
Bonjour.
Vous êtes autrice et avec Adélaïde Barra-Magnon, vous nous offrez un livre remarquable qui s'appelle Jungle aux éditions La Ville Brûle. Les illustrations sont de Fanny Modena. Vous êtes également autiste, Justine, et je le disais, votre livre et le film d'Alison Dobrez ont une immense qualité, c'est que vous nous emmenez dans votre monde, dans vos pensées. On comprend mieux grâce à vous ce que ça signifie d'être autiste. On comprend vos difficultés, mais surtout, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, on comprend aussi votre richesse intérieure dont j'aimerais beaucoup que l'on parle au cours de cette émission. Et avec nous également ce matin, le docteur Adrien Chaboch. Bonjour Adrien.
Bonjour Eva.
Je vous donne la parole dans quelques minutes. Avant d'entendre le témoignage d'Alison Dobrez, docteur Louis Durand, est-ce que vous pouvez nous définir le plus simplement possible ce que c'est l'autisme, si c'est facile à faire?
Alors, on en parlera peut-être après, pas si simple peut-être, mais le trouble du spectre de l'autisme, qu'on appelle aussi TSA, par son petit nom et son acronyme, est un trouble du neurodéveloppement qui est défini par l'Organisation mondiale de la santé selon deux critères importants que sont le déficit dans les interactions sociales et la communication associé à un caractère restreint, stéréotypé et répétitif des comportements, des activités et des intérêts, en sachant que ces deux grands domaines symptomatiques doivent être présents dans les phases précoces du développement de l'enfant.
D'accord. Et alors, vous avez utilisé ce mot de spectre, et donc à travers ce mot de spectre, on comprend qu'il y a une multitude de cas, en fait, derrière ce mot d'autisme. On est d'accord?
En effet. En fait, la notion de spectre rend très bien compte d'une grande diversité des profils, de leur singularité, mais aussi de leur complexité. Le TSA, en fait, va évoluer tout au long de la vie de la personne, en fonction de son âge, bien sûr, en fonction des accompagnements dont elle peut bénéficier, en fonction de son langage également et de son profil cognitif. La plasticité cérébrale, l'environnement de la personne vont être également à l'origine d'évolutions et de trajectoires très particulières et très diverses.
Donc on voit bien la difficulté aussi derrière ce mot-là, il y a tout un tas de comportements et de personnalités aussi qui se révèlent. Est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes entre les hommes et les femmes?
Alors c'est une question difficile parce que au sens de l'Organisation mondiale de la santé et encore actuellement, les critères diagnostiques qui permettent de diagnostiquer la femme, la petite fille, le petit garçon, l'homme, sont strictement les mêmes. Donc nous avons les mêmes critères diagnostiques pour diagnostiquer la petite fille, la femme, le petit garçon, l'homme adulte. Pour autant, effectivement, un certain nombre d'études depuis 10 ans semblent en faveur de différences entre les différents symptômes entre les hommes et les femmes.
On peut en donner un exemple ? Ah pardon, oui, je vous ai coupé,
même si il existe tout de même des formes typiques également reconnaissables chez les femmes. Alors, certaines études semblent en faveur d'une meilleure compétence dans la communication sociale, peut-être une plus grande motivation sociale du côté des femmes, exactement. Et peut-être également quelques études qui évoque aussi des gestuelles de communication, vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher, mais des gestuelles de communication qui seraient plus développées chez les femmes, en fait, qui différencieraient peut-être ces tableaux cliniques, même si ces différences sont peut-être le reflet, en fait, de la différence qui peut exister entre la motivation sociale féminine et masculine, tout simplement.
Et alors, pour être clair, docteur, l'autisme n'est pas une maladie. On est d'accord avec ça?
Alors, l'autisme est un trouble, aujourd'hui, qui est défini par ces deux grands critères. On n'a pas à l'heure actuelle, par exemple, de biomarqueurs qui nous permettent de poser un diagnostic objectivable et mesurable, comme dans un certain nombre d'autres troubles ou maladies. On n'a pas de prise de sang, on n'a pas d'imagerie cérébrale qui permettent de poser le diagnostic. C'est pour ça qu'on parle plus volontiers de troubles du neurodéveloppement, qui englobent beaucoup d'autres troubles d'ailleurs.
Et donc pas de traitement non plus?
À l'heure actuelle, pas de traitement spécifique pour les deux grands symptômes que je vous ai cités. Pour autant, quand on parle de diversité, tout à l'heure, j'aurais pu ajouter qu'au cours du développement, un certain nombre de personnes vont développer des troubles associés. Par exemple, l'épilepsie, par exemple, le trouble déficitaire de l'attention avec une hyperactivité. Et dans ce cadre particulier, on a des traitements médicamenteux qui existent et qui peuvent vraiment aider la personne.
Vous allez nous expliquer pourquoi les femmes en particulier sont diagnostiquées tardivement. On va y venir et quelles en sont surtout les conséquences. Alison Dobresse, à quel âge vous avez été, vous, diagnostiquée pour la première fois ?
Au mois de mars.
De ce mois-ci, là. Et vous avez quel âge aujourd'hui ?
C'était là.
En 2025, vous avez quel âge ? 30 ans. Alors, ça veut dire que vous n'aviez jamais entendu le mot autisme jusqu'à ce mois de mars ?
À 19 ans, parce que je suis allée voir une psychiatre, j'avais des phobies sociales.
Oui.
et du coup, elle m'en avait parlé à ce moment-là.
Mais pas...
Mais moi, au bout de quelques temps de psychanalyse, quoi, et je suis partie, moi, quand elle m'a dit ça.
C'est vrai, ça vous a fait fuir un peu ?
Un petit peu.
Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous acceptiez de retourner voir un psychologue et peut-être faire des tests ? Je ne sais pas comment ça s'est passé pour votre diagnostic.
Parce que c'était compliqué, hein, du coup, depuis que je suis petite, de toute façon. Ça, pendant 10 ans, c'était super dur. Et après, il m'est arrivé un événement un peu tragique dans ma vie au mois de mai l'année dernière. Enfin, j'ai un incendie et j'ai perdu mon chien dedans. Moi qui suis très attachée aux animaux. Donc là, c'était...
Vous êtes un peu effondrée.
Beaucoup. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et je suis allée voir une psychologue qui m'a redit ces termes-là.
Ouais.
Mais du coup, c'était plus bienveillant qu'il y a 11 ans, du coup, non ? C'était différent.
Vous étiez prête à l'entendre, peut-être ?
Prête facilement. À l'entendre, et puis c'était beaucoup plus fluide avec la personne qui était en face de moi et qui m'accompagne toujours, d'ailleurs, et du coup, qui m'a emmenée à Bordeaux, qui m'a trouvé les spécialistes pour faire ce diagnostic.
Et alors, comment se fait ce diagnostic ? Vous faites une batterie de tests, en fait, c'est ça ?
J'ai reçu beaucoup de... Parce que je n'étais pas à Bordeaux, donc on m'a envoyé des quiz, des tests, des questions et tout ça. Et puis après, j'ai eu un entretien visio. Et ensuite, je me suis déplacée pour faire des tests pendant 4 ou 5 heures, je ne sais plus. Avec des cubes, calculs. des calculs mentaux, des choses comme ça, quoi.
Et est-ce que vous pouvez juste nous décrire comment cette phobie sociale dont vous nous parliez, quand vous étiez même plus jeune et encore aujourd'hui, comment elle se manifeste? Qu'est-ce que vous avez qui vous... Comment ça, oui, tous les jours, comment ça se concrétise, en fait?
Au début, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Hein, du coup, on m'avait donné des médicaments et tout ça. Sauf que ça ne m'a pas du tout aidée. Au contraire, c'était horrible. Enfin, je n'ai pas du tout bien vécu. Enfin, je sais pas, c'est... je pouvais pas aller dans les magasins, même les gens autour de moi. Enfin, c'est des crises d'angoisse, quoi, comme si une sensation de stress intense. Et j'arrive même pas à le décrire, du coup, mais comme une bulle où ça va très très vite autour. Les lumières.
Et une forme d'hypersensibilité, oui, au bruit,
oui, je crois. Ouais. 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 Ouais.
Justine Langlois, vous avez une hypersensibilité, vous, ou pas?
Moi, ça, c'est surtout le bruit et puis la lumière.
Ouais. Ouais.
On appelle ça les hypersensibilités sensorielles. Et en général, c'est un des traits, des symptômes chez les personnes autistes. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi. Mais moi, c'est surtout bruit, lumière. Puis il y en a, ça peut être les textures, les odeurs, tous les sens, en fait. Ils sont plus... éveillé, je dirais, que chez une personne neurotypique.
Docteur Durand, est-ce que ce genre d'hypersensibilité, ça peut être, j'allais dire, un indice quand on a un enfant très sensible comme ça, qui peut nous alerter et nous pousser à consulter?
Alors, bien sûr, et à la fois, il existe aussi des particularités sensorielles dans d'autres troubles du neurodéveloppement. Mais c'est un signe d'alerte, en effet, pour un trouble du neurodéveloppement dans tous les cas. Et ce qu'Alison et Justine décrivent très bien, c'est aussi peut-être une des particularités inhérentes au profil féminin, c'est-à-dire plutôt des profils hypersensibles, alors qu'on peut repérer aussi des hyposensibilités dans certains cas, associées à ces hypersensibilités dans d'autres cadres, et dans, par exemple chez les garçons, dans les autres formes d'autisme.
Donc hypo, ça veut dire qu'on
exemple des hypos, une hyposensibilité à la douleur, ce qui peut être vraiment un risque.
Ah, vous avez ça, Alison?
Sur certaines parties de mon corps, je supporte pas qu'on me touche, vraiment.
Ouais.
Et du coup, des fois,
vous ressentez rien, d'accord.
C'est très fort et c'est pas...
Ah oui, pincé ou vous brûlez, par exemple?
Oui, des fois, je me fais mal, j'ai des gros hématomes, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi?
Vous en souvenez pas?
Non.
Ouais. Justine, je vous ai pas demandé quel âge vous avez, pardon?
Moi, j'ai 29 ans.
29 ans, et vous avez été diagnostiquée à quel âge?
À 23 ans. Et j'avais commencé mon diagnostic à 22 ans. Ça avait pris un peu plus d'un an avant de le recevoir et de le terminer.
On va reparler évidemment de Jungle avec ce personnage de Gabi. Est-ce qu'il vous ressemble beaucoup, ce personnage de Gabi, qui est une jeune femme qui découvre aussi
Elle me ressemble beaucoup. En fait, c'est un personnage de fiction, mais c'est vraiment un mix entre Adélaïde et moi. Donc,
Adélaïde, qui est l'autre co-scénariste, c'est ça. On va y revenir évidemment, puis on va essayer de comprendre aussi pourquoi les femmes sont diagnostiquées aussi tardivement. Adrien Chaboch, dans quelques minutes, on va aussi vous laisser la parole. Le thème de votre chronique, c'est notre sujet, j'imagine.
Et oui, j'ai exploré au travers d'une patiente que j'ai accompagnée, qui était entre guillemets trop bien pour être autiste. Alors je vais explorer avec vous quand l'adaptation forcée devient pathologique, quand l'adaptation forcée fait du mal.
Oui.
Eva Rock. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me disent « t'as des traits autistiques ». En fait, souvent on dit ça. Et un jour, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai appris qu'en fait, le syndrome d'Asperger s'exprime de façon différente chez les hommes et chez les femmes. Ça se voit beaucoup plus chez les hommes parce que les femmes vont vraiment essayer de compenser en fait pour cacher leurs traits et pour se fondre vraiment dans la masse en fait. Et quand j'ai commencé à lire les caractéristiques des femmes Asperger, c'est sûr, c'est ça, je me suis vraiment reconnue et ça faisait aucun doute pour moi. J'ai quand même fait des tests chez une psychiatre, etc., pour avoir vraiment les tests officiels, pour avoir le diagnostic officiel. Tous les liens se sont faits dans ma tête, j'ai eu les clés de ma vie, quoi. J'ai compris juste comment je fonctionnais.
J'ai eu les clés de ma vie. C'était la voix de l'humoriste et comédienne Laura Lone qui n'hésite pas à parler de son autisme. L'autisme chez les femmes, c'est notre sujet du jour. Nous en discutons avec la réalisatrice Alison Dobres, l'autrice Justine Langlois et la psychiatre Emmanuelle Louis Durand. Justine Langlois, je parlais de votre roman graphique qui s'appelle Jungle et pas Jungle. J'ai voulu faire la maline. Je ne sais pas pourquoi je l'ai voulu le prononcer en anglais. En revanche, ce mot de jungle, il est extrêmement intéressant. Pourquoi ce titre et pourquoi vous avez représenté quelque part l'autisme à travers cette image de la jungle ?
L'image de la jungle, on l'a choisie toutes les trois, donc avec Fanny et Adélaïde aussi. On voulait un environnement qui soit à la fois intérieur et à la fois extérieur. Et on a choisi un environnement naturel dans lequel il y a beaucoup de choses qui peuvent vivre et qui peuvent grandir, ou alors au contraire qui peuvent être un peu étouffants. Et en fait, quand on a écrit le scénario, on a choisi de mettre plein de choses. Enfin, il y avait des plantes, il y avait des animaux qui représentaient certains moments du quotidien pour une personne autiste. On mettait des petits insectes, par exemple, pour montrer qu'on est parasité par quelque chose, enfin, ce genre de détails-là. Et du coup, on voulait vraiment quelque chose qui soit à la fois intérieur et extérieur. Ouais. Comment on se ressent, nous, et comment on ressent le monde, on va dire. Et il fallait que ce soit un lieu dans lequel on puisse se perdre, se retrouver. Il y a des fleurs qui grandissent. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer.
Et ça fonctionne très bien. Ouais, et ça fonctionne très très bien parce qu'on a vraiment l'impression d'être quelque part à l'intérieur de vous et de mieux comprendre en fait ce que vous pouvez ressentir au quotidien. Docteur, on va évoquer dans quelques minutes, grâce à Adrien Chaboch, les conséquences du retard de diagnostic. Mais je voudrais simplement qu'on revienne sur cette étape de ce diagnostic, c'est-à-dire quand la première fois qu'on entend le mot d'autisme, c'est un mot qui est extrêmement important. En fait, c'est déterminant pour les femmes d'entendre ce terme-là.
Pour les femmes et pas seulement, je pense.
Oui, pardon, mais c'est parce qu'on parle des femmes.
On est d'accord. Oui, c'est déterminant parce qu'on va pouvoir mettre un mot sur des symptômes, parfois incompris, sur effectivement un accueil, parfois, on le disait, en milieu professionnel ou dans la société, régulièrement incompris. C'est aussi parfois un diagnostic qui est posé, en fait, après des errances, effectivement, diagnostiques, et notamment chez la femme, parce que souvent les symptômes ont pu être masqués, par exemple par une dépression, on en parlait tout à l'heure, par un trouble anxieux, par même des troubles du stress post-traumatique. Et en fait, c'est peut-être un des éléments ou une des clés du retard, justement, c'est que peut-être ces symptômes-là ont été reconnus et mieux identifiés avant ceux de l'autisme lui-même.
Oui, mais alors on en arrive, Alison, je reviens sur votre cas, au fait qu'on vous donne des médicaments parce qu'on ne pense qu'à l'anxiété, qu'à une forme de dépression, et on s'arrête là, en fait, on ne va pas chercher plus loin, c'est ce qui vous est arrivé, en fait.
Oui, c'est ça. Enfin, avant de voir la psychiatre en privé, je suis passée par le CMP, Centre médico-psychologique, et du coup, c'était pas une bonne expérience pour moi, parce que t'arrives, et puis... Ok, je vous prescris ça, salut.
Oui.
D'accord, mais du coup, j'avance quand ?
Et vous avez Emmanuel, Durand, vous avez l'impression qu'on prend mieux en charge aujourd'hui la spécificité des femmes ou pas ?
Alors, Alison vient de parler des centres médico-psychologiques. Mmh. C'est vrai qu'on a une difficulté en France qui est connue, je pense, maintenant nationalement et dans le domaine de la santé mentale, même si c'est la grande cause nationale cette année, de difficultés de recours à des spécialistes. C'est le cas dans d'autres spécialités, bien sûr, mais c'est très criant dans la psychiatrie et en pédopsychiatrie également. Donc c'est une vraie difficulté. Je suis partie sur cette notion de CMP, et pourtant j'avais envie d'ajouter. On évoquait et le diagnostic et les traitements. Je crois qu'il ne faut pas non plus omettre le traitement lorsqu'il est nécessaire.
Oui,
c'est-à-dire que parfois c'est nécessaire de traiter l'anxiété, parfois c'est nécessaire de traiter la dépression. Les traitements ne sont pas forcément tolérés de la même façon dans tous les contextes, et notamment dans les troubles du neurodéveloppement. Pour autant, ça reste des traitements de choix.
Mais vous avez donc répondu à ma question, il y a une meilleure prise en charge.
Il y a une meilleure prise en charge. En tout cas, il y a les centres ressources autisme aujourd'hui qui peut-être ont mis en veille aussi les centres médico-psychologiques. Ça, c'est peut-être un petit peu le pendant, si je puis dire, puisque on a peut-être pensé hâtivement que les centres ressources autisme allaient répondre à cette question du diagnostic, et en fait, c'est insuffisant.
Oui,
très nettement insuffisant si effectivement on pense aux 600 000 personnes adultes, c'est-à-dire de plus de 20 ans, qui ne sont pas diagnostiquées.
Ah oui, j'en ai annoncé 700 000.
Ou très peu diagnostiquées.
J'en ai annoncé 700 000 dans mon introduction, c'est 600 000.
Ce serait 600 000, alors, ce sont des extrapolations bien sûr, mais ce serait 600 000 adultes de plus de 20 ans, et on estime, la dernière stratégie nationale estimait à environ 75 000 personnes adultes diagnostiquées. Donc on voit effectivement tout le chemin à faire.
Oui, il y a encore du boulot.
Exactement.
Justine Langlois, Gaby, votre personnage, elle nous fait comprendre que quand il arrive ce moment du diagnostic, en fait, elle arrête de se dire « je suis folle ». Non, je ne suis pas folle. Il se passe quelque chose et on sait l'expliquer. C'est ça aussi l'importance de ce moment-là, en fait.
Oui, oui, oui. En fait, le diagnostic, il va poser quelque chose où on va se dire... on va comprendre en fait tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui nous attend aussi, parce que comme on disait, enfin, ça se soigne pas, donc c'est pour toute la vie. Et ce mot là, on dit qu'elle est folle. En fait, c'est un mot que nous on se répétait souvent, on se posait la question. Moi, c'est aussi quelque chose dont j'ai entendu d'autres personnes, bizarre, folle, ou d'autres insultes aussi. Et du coup, ça me pose un terme qui peut aider. Mais je dirais aussi que, enfin, c'est pas... Moi, ça m'a soulagée, mais ça n'a pas changé vraiment ma vie, en réalité, parce que ça change un peu rien. En fait, ça met juste un mot sur quelque chose. Après, on peut essayer de s'adapter ou de faire au mieux pour mieux le vivre, je dirais. Mais sinon, c'est pas un super pouvoir ou quelque chose où on va se dire « toute ma vie va changer ».
Oui, bien sûr.
En fait, il n'y a rien qui changerait réellement.
Et alors, d'ailleurs, on a Flora qui nous a envoyé un message et qui nous dit « Le souci de mon point de vue, ce sont les idées reçues autour de l'autisme en entretien d'embauche. Quand j'ai eu le malheur de dire que j'avais des TSA, ce que nous racontaient les troubles de l'autisme, on ne m'a jamais rappelé, malgré mes compétences nombreuses et pointues. Les chiffres, ils sont effarants. On estime le taux de chômage des femmes autistes en Europe, à 75%. Alison Dobrez, comment ça se passe pour vous dans le monde du travail? Comment vous arrivez à d'abord à trouver un job, un travail? Et est-ce qu'on prend en compte votre autisme? Ou pas du tout? Ou comment ça se passe?
J'en parle pas.
Vous en parlez pas?
Non. Ouais. Maintenant, je suis à mon compte depuis 2 ans déjà dans la vidéo.
Mais vous êtes mis à votre compte parce que justement, c'est plus facile pour vous, c'est ça?
Oui. Et puis j'ai fait beaucoup de choses.
Ouais.
Enfin, j'ai travaillé dans plusieurs milieux. Mais à chaque fois, c'est assez compliqué. Oui.
Alors en même temps, vous me disiez, donc vous êtes réalisatrice d'un film, on va en entendre un extrait dans quelques minutes.
Oui.
Vous présentez ce film lors de projections publiques.
Oui.
Donc vous prenez la parole pour répondre aux questions et expliquer l'origine de ce film, etc. Comment ça se passe?
Pas bien. Bon, si, ça va, mais je sais pas, j'y arrive quand même. Après, j'ai toujours su que j'étais différente, je savais pas trop, j'avais pas trop... Fin... J'arrivais pas à mettre deux mots dessus, mais je travaille dessus, en fait, entre guillemets, depuis très longtemps. Je lis beaucoup de choses, pas qu'en lien avec le TSA, mais sur la santé mentale en général. Et ça m'a beaucoup aidée. Et maintenant, je pense que j'arrive à m'exprimer en public beaucoup plus. C'est un travail, mais c'est plus simple maintenant
qu'avant.
Avant, je ne pouvais pas... pas parler du tout, quoi.
Ouais.
Des fois.
Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation, parce que j'imagine que c'est pas forcément
ça va.
Évident. Bon, on est tous stressés, en fait. Hein, donc, même Adrien, il est stressé aussi, voilà. Justine Langlois, vous avez eu, vous, des difficultés dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel?
Oui, beaucoup.
Ouais.
Moi, j'ai rarement eu un travail très longtemps, en fait. J'avais toujours... soit je démissionnais, soit je faisais exprès de choisir des contrats qui duraient très peu de temps. Et puis, c'était un peu des stratégies comme ça pour ne jamais trop rester dans un emploi où j'annonçais pas mon autisme avant. Parce que c'était des milieux où je savais que, un peu comme la personne qui a témoigné, j'allais pas avoir le job derrière si je le disais. Ou alors, on n'allait pas vouloir aménager mon poste à la hauteur de ce dont j'ai besoin. Et du coup, le travail que j'ai actuellement, c'est la première fois que j'en ai parlé. Et ça a été assez compliqué avant que... mes collègues ou ma direction comprennent en fait ce que j'avais besoin. Et du coup, c'est la première fois où je reste un peu plus de, je sais pas, 3 mois dans un travail, ouais. En fait.
C'est quoi la plus grande difficulté? C'est la relation avec les autres?
Ça peut être ça, mais moi, en réalité, c'est plus le fait de... J'arrive pas à travailler dans un open space. J'ai besoin d'être dans des endroits très calmes pour me concentrer. Soit d'être chez moi, soit d'avoir une pièce pour me mettre au calme. J'ai besoin de faire beaucoup de pauses, des fois de faire des siestes. Enfin, plein de choses qui peuvent, en fait, passer pour de la... fainéantisme, ouais. Ou alors de la sociabilité, on va dire. Et souvent, ça plaît pas trop dans le milieu du travail. Et en fait, moi, on m'a souvent dit on peut pas aménager ton poste parce que tes collègues, ils vont être jaloux de toi. C'est un peu la phrase qu'on m'a ressortie tout le temps, je dirais.
Docteur Emmanuel, oui, Durand, je vois, ça vous fait réagir. Bon, ça nous a tous fait réagir.
Oui, le terme jalousie, oui, me fait réagir. En fait, je crois que, effectivement, l'inclusion, elle est d'autant plus compliquée pour l'ensemble des handicaps qui sont dits invisibles, oui. Entre guillemets. C'est une difficulté de reconnaissance et la santé mentale, elle souffre de façon globale de cette invisibilité, si je puis dire. Et elle souffre, du coup, de nombreux préjugés, de discrimination. Oui. Alors même que le profil cognitif, effectivement, c'est un profil différent, une façon de raisonner parfois et de voir les choses différemment, qui pourrait être une vraie richesse pour l'entreprise.
Oui, une richesse pour l'entreprise, et on le voit bien dans le témoignage que vous venez de nous donner, Justine Langlois, que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Si vous avez besoin de calme, c'est possible. Enfin, ça demande pas un investissement de la part des entreprises. Non, me semble immense. Voilà.
Ça coûte pas d'argent.
On a découvert le télétravail aussi. C'est pas une recette miracle, mais ça existe quand même, quoi.
Il y a une chose que j'aimerais bien dire, c'est qu'en fait, quand on rend accessible le poste de travail à une personne autiste ou une personne handicapée, c'est pas pour la rendre plus performante ou pour parce qu'on a besoin de confort ou qu'on est un peu des princesses ou je sais pas trop quelque chose un peu comme ça. C'est vraiment qu'on en a besoin, sinon on peut pas travailler. Donc c'est vraiment nécessaire et une je crois que d'ailleurs c'est une obligation légale en réalité de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est pas du confort, c'est vraiment obligatoire.
J'espère que le message est passé, en tout cas celui-là. Je voudrais qu'on donne la parole à Daria Ermakova. Bonjour Daria.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directrice de l'association Naked Earth en France. C'est une association qui a été créée par la mannequin et actrice Natalia Vodionova, dont la sœur est autiste. Je précise que Nathalie Vodionova est maman de 5 enfants. Elle est l'épouse d'Antoine Arnaud. Et avec l'association, vous militez pour une société plus inclusive, comme on vient d'en parler. C'est une société ouverte aux personnes présentant des troubles neurodéveloppementaux et notamment aux personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Il y a quelques jours, vous avez organisé un forum intitulé « Créer du lien » et vous avez mis l'accent sur l'importance de la culture. Pourquoi précisément la culture ?
Mais déjà, c'est la 5e édition de notre forum. Nous l'avons lancé il y a 2 ans pour effectivement créer ce lien entre l'approche scientifique et les réalités du quotidien des familles. Et nous touchons les sujets différents du quotidien, non seulement la culture, mais nous avons commencé par la petite enfance, ensuite c'était le passage à l'âge adulte, le sport inclusif, et cette année, l'édition portait le nom de la culture inclusive. Et la culture inclusive, c'est très simple. En fait, c'est une partie de la vie importante qui doit être ouverte et accessible à tous. Nous avons accueilli non seulement des scientifiques, mais aussi les associations qui permettent de rendre la vie et le quotidien des parents un peu plus simple. Notamment l'association Culture Relax,
oui.
Qui simplifie l'accès au spectacle vivant. Le fait accessible à tout le monde.
Pardon, je vous coupe, mais pourquoi c'est si important finalement de rendre accessible le spectacle vivant à des personnes qui souffrent d'autisme?
C'est non seulement à eux, mais c'est vraiment de rendre le spectacle vivant, la culture, le quotidien, tous les lieux publics inclusifs. Donc,
d'accord.
C'est de permettre l'inclusion des personnes TSA, que puissent profiter des choses simples de la vie comme nous.
Ouais.
c'est tout à fait normal. C'est pas un luxe
d'aller
voir
un
spectacle ou d'aller voir un cinéma. C'est quelque chose qui doit être pratiqué et accessible à tout le monde.
Alors, avec l'association, vous menez plusieurs actions, donc notamment mettre en avant les données scientifiques aussi, et les expliquer aux familles, faciliter aussi l'adaptation culturelle et programmes de soutien. Et puis vous développez aussi un centre dans l'Oise. Qu'est-ce que c'est que ce centre en fait, en particulier ?
C'est toujours un cours, donc ce sera un centre d'intervention précoce où nous allons accueillir les programmes scientifiquement validés, axés sur des thérapies comportementales avec les initiatives de guidance parentale y inclus. Concrètement, nos experts et pairs des programmes de référence reconnus à l'international et veillent à ce qu'ils soient accessibles à tout le monde. Ensuite, ils adaptent au contexte culturel français, et afin de proposer quelque chose de complémentaire à ce qui existe sur le territoire français déjà.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui existent, bien évidemment, en France. Et notre travail de notre association, c'est de nous appuyer sur un vaste réseau de scientifiques que nous avons à l'international.
Emmanuel-Louis Durand, on comprend qu'il y a les structures comme celle à laquelle vous appartenez qui sont extrêmement importantes pour aider les familles et les personnes qui souffrent d'autisme. Mais il y a aussi toutes ces associations qui viennent en complément.
Bien sûr.
On en a besoin encore aujourd'hui en France, énormément.
J'avais envie de réagir à ce témoignage parce qu'effectivement, on a parlé et on a plutôt évoqué l'autisme de la jeune femme adulte sans trouble du développement intellectuel. Mais je pensais aussi à toutes ces personnes qui ont un trouble du développement intellectuel et pour lesquelles les préjugés, la discrimination sont incessants. Et effectivement, un enfant, un jeune ado ou un adulte avec une déficience intellectuelle et un autisme, dans un concert, dans un spectacle, est souvent mal vu, mal regardé, mal perçu, incompris, encore une fois, parce que c'est un handicap invisible bien souvent. Et donc c'est vraiment important que des associations œuvrent pour ce type d'inclusion aussi. Et bien sûr, l'inclusion professionnelle également.
Oui,
les deux, c'est très important pour l'épanouissement de la personne, tout
exactement.
Simplement.
Merci beaucoup, Daria Ermakova. Toutes les coordonnées de l'association Nekeder sont à retrouver sur la page de Grand Bien Vous Fasse, évidemment. Et ça sera via l'application Radio France. On vous remercie pour cette action que vous menez. Mais il est 10h40 et il est l'heure de vous retrouver, Adrien Chaboche.
Voilà, ça me le fait, là.
Grand Bien Vous Fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Eva Rock.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Et Adrien, ce matin, vous vouliez nous parler de Julia.
Oui, Julia, je vais vous raconter son histoire atypique. Julia, elle avait 23 ans quand elle vient me voir en demandant un suivi régulier. Et à cet âge, c'est assez rare, je m'en étonne. Mais Julia, elle fait tout, toujours très bien. Souriante, appliquée, brillante dans son travail, parfaitement adaptée à tout. Elle insiste sur l'importance de bien remplir son rôle de maman, qu'elle ne veut pas déléguer à son mari, malgré ses propositions d'aide. Alors pendant 14 ans, je la revois régulièrement, et pour des raisons variées. Des insomnies, de la fatigue, des douleurs diffuses, a priori sans lien apparent.
Et alors, mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, hein ?
C'est d'abord une intuition, appuyée sur l'observation clinique. Derrière ces sourires, je voyais un instant comme un voile qui se levait. Des gestes trop réglés, presque mécaniques, un regard qui guettait toutes mes réactions, comme pour s'ajuster en permanence avec moi. Julia, c'est un peu l'élève modèle qu'on félicite, la collègue irréprochable, l'amie qui vous écoute mieux qu'elle ne s'entend elle-même. Une femme comme trop normale, jusqu'à s'oublier.
Mais alors vous avez fait comment pour l'aider ?
Ça s'est pas fait en une fois, mais avec le temps. Et pour ça, il faut des consultations qui soient pas du speed dating de 15 minutes.
Ouais.
Il faut de l'écoute, de la confiance. Un jour, j'ai osé lui demander « Est-ce que vous vous sentez normal ?» Elle me dit « Oui ». Et j'ose, je lui dis « Est-ce que ça vous convient vraiment ?» Et là, le masque tombe. En larmes, elle avoue « Non. Non, je suis pas moi. Jamais moi, je m'épuise. » Alors, c'est grâce à un bilan neuropsychologique que je lui ai proposé de faire qu'on a mis des mots sur sa neuroatypie avec un épuisement adaptatif. Longtemps masqué. En neuropsychologie, on parle de masking, une stratégie consciente et inconsciente pour coller aux normes sociales, copier les codes, imiter les autres, jusqu'à s'effacer. Le psychanalyste Carl Gustav Jung appelait ça la persona, ce masque social avec lequel on se construit jusqu'à ce qu'il se fissure, parfois justement lorsqu'on a coché toutes les cases d'une vie que l'on pensait avoir décidé, alors qu'elle nous avait été imposée par des modèles.
Mais alors, est-ce qu'on a des connaissances scientifiques sur les conséquences en fait, de cette hyperadaptation dont nous ont d'ailleurs parlé et Justine et Alison ?
Eh oui, ce masque a un coût énorme. L'imagerie cérébrale, par exemple, montre que cette adaptation surcharge le cortex préfrontal et les aires du contrôle exécutif. Ça veut dire quoi en français ? Eh bien, à long terme, cela engendre une fatigue cognitive chronique, de l'anxiété, des troubles du sommeil, jusqu'à des états dépressifs, avec un sur-risque de burn-out. Une étude de 2024 montre que les critères diagnostiques actuels, basés sur des études antérieures et souvent centrées sur les garçons, ne tiennent pas compte des différences de présentation chez les filles, car elles sont socialement poussées à être agréables, empathiques et invisibles aussi. Ce diagnostic tardif n'est pas qu'un retard médical. C'est aussi un miroir tendu à notre société, parce qu'on attend des femmes qu'elles soient souples, discrètes, émotionnellement disponibles. Le caméléon social devient un modèle, mais jusqu'à l'épuisement. Alors ma petite prescription d'aujourd'hui tient en trois étapes pour celles et ceux qui se sentent prisonniers, prisonnières d'un rôle. Tout d'abord, pour repérer votre masque, posez-vous deux questions. Qu'est-ce que je montre pour être accepté et qu'est-ce que je cache de moi ? Vous dire déjà à vous-même ce que vous taisez, c'est déjà vous libérer un peu. Puis écoutez sincèrement votre vérité intérieure. Imaginez-vous sans aucun regard autour de vous. Qu'est-ce qui vous apaise ? Qu'est-ce qui vous anime ? Et enfin, la dernière étape, osez. Osez faire un petit pas de côté, en dehors des cases, mais vers vous. Et je vous invite vraiment, aux personnes qui le sont de confiance, de partager un peu de ces vérités que vous ressentez. Parce que la persona, c'est un vêtement social, mais à force de trop bien le porter, on oublie notre peau. De temps en temps, il faut se déshabiller, le paraître pour respirer le vivant.
Merci infiniment, Adrien. Votre chronique Quoi neuf docteur est à podcaster sur l'application Radio France et à partager.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
La nature m'enlace et me comprend. Je l'entends, je la ressens. Je pourrais rester là, des heures enfermées dans la douceur du monde, loin des autres, loin des attentes. Je crée. Des heures entières, absorbées par les traits, les couleurs, les formes. La solitude n'est pas un vide, c'est un cocon où mon esprit peut danser sans entrave.
Nous venons d'entendre un extrait de votre très beau film, Alison Dobress, un film intitulé « Au-delà des normes ». Pouvoir créer, c'est déterminant pour vous ? C'est quelque chose d'extrêmement important ?
Oui, c'est une passion, hein, la vidéo. Oui. J'ai toujours voulu faire ça et je me donne à fond là-dedans. Et pour le coup, ça ne me prend pas du tout d'énergie parce que je peux faire ça des heures, je ne me rends même pas compte.
Et la relation à la nature que vous décrivez si bien dans ce film, ça aussi, c'est quelque chose qui est aussi du lien de cette hypersensibilité que vous avez. Vous avez l'impression que c'est un peu lié ou pas du tout ? Si vous avez une passion pour la nature, pour les animaux ?
Peut-être que c'est lié. Je me suis jamais vraiment posé la question, mais si j'ai pas cet aspect-là, c'est compliqué pour moi. Et les animaux...
C'est vrai ?
Oui, alors là, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup trop. Enfin, beaucoup trop, je sais pas. Moi, je suis contente d'être comme ça, mais du coup, des fois, c'est dur.
Mais alors, tous les animaux ?
Oui.
Tous les animaux. Il y a quelque chose de rassurant quand vous êtes en contact
Ah ouais, je trouve, je sais pas, ça m'émeut, je suis bien, je...
Il y a pas ce masque
entouré de plein de chiens, plein de chats.
Il n'y a pas ce masque social dont parlait Adrien Chaboch,
qui
vous est toujours imposé quand vous êtes en...
Non, puis je trouve ça pur, je sais pas, je me sens bien, ça a toujours été depuis petite, hein. J'avais pas trop d'amis et j'étais plus tournée
vers les animaux.
Et puis la nature, c'est hyper important pour moi aussi.
Justine Langlois, je rappelle que votre livre s'appelle Jungle. Est-ce que la nature aussi est extrêmement importante pour vous ?
Oui, et pour rebondir sur ce que disait Alison, on en parle justement dans Jungle, ce rapport avec les animaux, où Gabi, notre personnage principal, elle a un chat.
Ouais.
Et elle l'explique plusieurs fois qu'en fait, avec lui, tout est plus simple. Puis c'est vraiment l'animal qui la rassure, qui lui fait du bien, puis c'est un peu un compagnon de vie qui est tout le temps là, un peu comme un petit médicament, je dirais. Ouais. Donc, mais oui, je crois que c'est très commun chez les personnes autistes, ce lien avec les animaux et la nature, c'est alors, très important.
Ouais, en même temps, on le comprend parce que ces animaux, ils ne peuvent pas vous dire un nombre de phrases que vous indiquez dans votre roman graphique, vous appelez ça le bingo. C'est le bingo des phrases que vraiment qu'on n'a pas envie d'entendre. J'en cite quelques-unes. Hein. On est toutes et tous un peu autistes. Ah. Voilà. On est d'accord, Emmanuel, oui, Durand, on ne peut pas dire ce genre de choses. Tu ne ressembles pas au neveu de la fille de ma voisine qui, lui, est autiste. Et alors, tu as un QI de combien? Tu ne serais pas juste un peu hypersensible ou trop intelligente? Et le t'as pas l'air autiste. Ouais, ouais. Est-ce que vous entendez encore ces phrases au quotidien, Justine et Alison? Et comment vous réagissez quand vous entendez ça, Alison?
Alors, moi, ça m'arrive quand j'ai fait la projection de mon film. On veut des gens qui prennent le micro, ah oui, qui disent... Alors, il y en a qui ne le disent plus, ils s'y retrouvent, ça peut parler à tout le monde, parce que dans le film, je le dis à la fin que j'ai des troubles, que je suis Asperger, et je ne le dis pas avant, donc oui, ça peut parler à tout le monde, mais il y a des personnes, je pense que c'est maladroit, c'est pas forcément...
De la méconnaissance, peut-être.
Oui, aussi, ouais. Et c'est... j'aurais jamais pensé que t'étais... Ça se voit pas du tout, des choses comme ouais, ça, ou alors, oui, mais on est tous un peu comme ça. Hein. Mm. Ouais. Ah bah là c'est compliqué, moi je sais pas, absolument pas quoi répondre sans m'énerver.
Ouais, sans vous énerver. Je comprends. Justine Langlois, pareil pour vous?
Moi je l'entends encore beaucoup. Hier on me l'a ressorti.
Qu'est-ce qu'on vous a dit hier?
En fait on a comparé une personne, quelqu'un m'a dit mais je pense qu'il est un petit peu autiste aussi. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on dit que sur l'autisme. On dit pas de quelqu'un, enfin d'un autre handicap ou une maladie, on dit pas on l'est un petit peu ou ouais, en partie. C'est assez lié à l'autisme, j'ai l'impression, cette remarque là. Mais maintenant, je sais quoi répondre. Parfois, je ne réponds pas parce que je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire. Puis j'ai l'impression que la personne en face, elle n'est pas prête à très entendre, ouverte ouais, pour apprendre quelque chose. Mais ce bingo, on s'est dit, on aurait dû l'imprimer et puis l'afficher quelque, enfin, dans la
si
rue.
Si vous le faites, je l'affiche chose, ici, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Je le ferai volontiers. Je voudrais qu'on donne la parole à Ariane qui vient de nous appeler au Standard de France Inter. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Vous avez une fille de 13 ans qui a été diagnostiquée autiste. À quoi ressemble votre parcours de parent dans ce moment-là, que j'imagine particulièrement difficile?
Alors, on a de la chance parce qu'on a réussi assez rapidement finalement à avoir un diagnostic, que comme on le voit dans les témoignages, très souvent pour les femmes, c'est des choses qui arrivent à l'âge adulte. Moi, je voulais signaler qu'effectivement, les premiers à pouvoir voir qu'il y a un souci, c'est les parents, et c'est compliqué parce que quand on a un enfant qui a des troubles du spectre autistique, déjà ça peut se traduire de plein de façons différentes, et puis souvent on doute de soi parce qu'on a l'impression qu'on a un enfant roi, qu'on le gâte trop, il a des problèmes pour mettre tel vêtement, il a des problèmes avec la nourriture, il a des problèmes avec le sommeil, il a des problèmes avec pas mal d'aspects de sa vie. Et en fait, on se remet beaucoup en question. Et à un moment, il faut se faire confiance et pousser la porte du médecin ou du psychologue et pouvoir en parler. Et ça, c'est pas simple. Moi, encore aujourd'hui, je doute souvent. Et
oui.
Mais ça me fait beaucoup de bien d'entendre ces émissions parce que c'est vrai que c'est un handicap invisible. C'est un handicap que les autres ne voient pas. Nous, on a eu notamment sa maîtresse l'année où on l'a fait diagnostiquer qui nous disait « Mais non, tout va bien, elle est vraiment formidable. » Ben oui, en classe, elle est en surcompensation, elle respecte excessivement les règles.
Elle pour ne pas se faire remarquer, eh oui.
Elle fait
oui,
ses devoirs. Et par contre, le soir à la maison, c'était l'horreur.
Quoi. Et, ouais.
Et tous les aspects de sa vie, d'autonomie, de propreté, enfin voilà, tout était compliqué par ailleurs.
Mais Ariane, je pense que vous allez faire du bien aussi aux gens qui nous écoutent, parce qu'on a eu un message de Pascal qui nous raconte « Ma petite fille a été diagnostiquée d'un TSA, l'entourage proche ne peut admettre et n'attribue qu'un diagnostic, enfant mal élevé, enfant tyran, et qui ne veut en faire qu'à sa tête. » Et ça revient exactement à ce que vous disiez. Et le meilleur conseil qu'on peut peut-être donné, Emmanuel, oui, Durand, je parle sous votre contrôle, mais c'est vraiment de ce que vient de nous dire Ariane, c'est de pousser la porte de chez un médecin pour au moins avoir un avis si on a un doute. Et puis après, la batterie de tests viendra confirmer ou pas une intuition, comme le disait Adrien Chaboche, on est d'accord.
Alors, on a la chance aujourd'hui. Alors, c'est vrai que là, on a parlé d'une jeune fille de 13 ans, une jeune adolescente, mais maintenant, en France, on a les plateformes de coordination et d'orientation qui sont dédiées au diagnostic des troubles du neurodéveloppement pour les plus jeunes, donc 0, 6 ans et 6 ans, 12 ans. Et ce sont des plateformes qui permettent d'accéder plus facilement à des diagnostics spécialisés de troubles du neurodéveloppement et même d'enchaîner directement sur des soins, sur les premiers soins. Donc ça, c'est quand même c'est quelque chose de très nouveau qui est arrivé avec les plans autisme. Et c'est une vraie chance. Et puis, à 13 ans, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, effectivement, du pédiatre. Tout d'abord, le diagnostic, il reste médical. Hein, donc, c'est pas les bilans psychologiques, orthophoniques vont aider. Ce sont des diagnostics pluridisciplinaires. Ils sont utiles, mais le diagnostic va rester médical in fine, toutes les autres évaluations vont permettre justement d'aller vers les soins, les accompagnements et éventuellement des compensations, des rééducations si besoin ou des aménagements à l'école aussi. C'est très important.
Oui, c'est très important. Mmh. D'où l'importance du diagnostic, parce que plus il est pris tôt et plus la prise en charge après elle peut être adaptée pour les enfants et pour les femmes. Merci beaucoup Ariane d'avoir témoigné et d'avoir appelé le standard de France Inter. Je voudrais juste vous lire d'autres messages qu'on a reçus aussi. Alors, vous avez répondu à la question où on peut se renseigner. C'était Hélène qui nous posait la question. Mais Claire nous dit, à l'issue d'un bilan cognitif suite à un état dépressif qui était trop récurrent, une hypersensibilité et une grande fatigue, on m'a diagnostiqué un trouble du spectre autistique impensable pour moi à 40 ans. Elle a été diagnostiquée à 40 ans. C'est très perturbant. Et en même temps, je comprends mieux pourquoi je suis fatiguée au travail, car je dois sans cesse compenser. Vous avez tous témoigné de cela. Mais maintenant, j'en fais quoi, sachant que je ne me sens pas épaulée. Mmh. Est-ce qu'il y a des structures pour aider les personnes qui sont diagnostiquées aussi tard, pour qu'elles reprennent confiance aussi en elles?
J'aimerais aussi positiver sur cet aspect des adaptations quand même, parce que ces adaptations, elles viennent au fil du temps et de l'évolution effectivement du trouble, mais elles sont possiblement aussi associées à la réorganisation cérébrale, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et donc, ce sont des mécanismes adaptatifs qui permettent à la personne, effectivement, de petit à petit voir ses symptômes diminuer. Certains même sortent, entre guillemets, des critères du diagnostic d'autisme, parfois. Mais ils peuvent garder en deçà, effectivement, des fragilités dans les compétences sociales, par exemple. Alors oui, après le diagnostic, il y a des centres de réhabilitation psychosociale, par exemple, où on peut accéder à de la remédiation cognitive, à de l'éducation thérapeutique, à des accompagnements, par exemple, d'ergothérapeutes, à du soutien à l'emploi. Dans les universités, on a aussi Atypi Friendly, qui accompagne les étudiants qui sont dans ces situations de handicap et de troubles du neurodéveloppement. Donc, toutes ces structures ou associations ou structures de soins vont être aidantes après un diagnostic tel que celui-ci.
Merci infiniment pour tous ces renseignements. Justine, je finis avec vous parce qu'il y a une phrase dans votre roman graphique qui est magnifique. L'autisme, c'est un cerveau qui danse sur son propre air et surtout à son propre rythme. Je me suis dit qu'on pouvait danser tous ensemble et que c'était pas plus mal. Merci infiniment à toutes les trois de nous avoir accompagnés ce matin pour évoquer ce sujet si important. Docteur Emmanuel-Louis Durand, encore merci. Justine Langlois, je conseille à tout le monde ce livre merveilleux, roman graphique Jungle, aux éditions La Vie Brûle. Et puis Alison Dobres, il faut voir votre magnifique film Au-delà des normes. Vous cherchez des producteurs, des distributeurs, pour que le film soit vu par le plus grand nombre. On va mettre une adresse mail sur la page de l'émission pour qu'on puisse vous contacter et qu'on puisse le propager, j'allais dire, pour le montrer vraiment à tout le monde.
Super.
Et puis, je vous recommande par ailleurs le podcast LSD de France Culture, nos collègues de France Culture sur le sujet de l'autisme. C'est à retrouver sur l'application Radio France. Adrien Chaboche, on vous retrouve rapidement auprès d'Ali Rebéi. Demain, il sera question de nostalgie. Est-ce un sentiment à cultiver ou au contraire à combattre ?
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.